Bonjour et bienvenue sur Au cœur du couple, le premier podcast qui vous donne la parole sur votre vie de couple. Je suis Soazic Castelnérac, créatrice du concept Save Your Love Date.
Je suis Marie-Lise Richard, psychologue et thérapeute de couple.
Ensemble, nous voulons vous écouter, vous interroger, nous interroger sur les difficultés que vous vivez au sein de votre couple.
Mais nous souhaitons aussi vous éclairer, vous proposer des pistes de réflexion et des actions concrètes pour que votre couple s'en nourrisse.
Notre croyance, oui, l'amour peut durer toute une vie et le couple peut être un lieu de bonheur, d'épanouissement et de bonification.
Mais rien ne pourra se faire sans vous, sans votre investissement, votre temps et votre volonté. Notre premier conseil sera donc de prendre le temps d'écouter ces épisodes à deux, puis d'en discuter, voire même d'en débattre.
Ne reste qu'à vous souhaiter un bon et inspirant moment avec nous.
C'est Julie que nous avons la joie d'accueillir à notre micro. Julie a 28 ans et elle vit en couple avec Renaud depuis 11 ans. Ils se sont mariés il y a 2 ans et ont eu la joie de devenir parents il y a quelques mois. Avec Julie, nous allons nous interroger sur la façon dont l'entité couple peut venir soigner, réparer une blessure ou combler un manque. En effet, Julie, dans son enfance et son adolescence, a souffert d'une pénurie d'amour. Elle peut ainsi avoir tendance à demander plus de marques d'amour, d'affection à son mari, afin de se sentir en sécurité. Mais est-ce son rôle, celui de son conjoint? En est-il capable de répondre à sa demande? Telle est la problématique de ce nouvel épisode d'Au cœur du couple.
Bonjour à tous, comme nous sommes heureuses avec Marie-Lise de vous retrouver pour, attention, la saison 4 d'Au cœur du couple. Bonjour Marie-Lise.
Bonjour Soazic, très contente de revenir après l'été, j'ai l'impression que c'était hyper long cette pause.
C'est vrai qu'on a fait une belle pause, mais ça ne nous a pas empêché de travailler, notamment pour le podcast. Pour nous, c'est quand même, qu'on vous le dise, une grande fierté de revenir pour une saison 4, d'ouvrir cette saison 4. Je pense pas qu'on s'était fixé un tel objectif au début, il y a un peu plus de 2 ans maintenant, quand on a enregistré le premier épisode. On s'était pas trop projeté, on savait pas trop là où ça allait aller. Et finalement, grâce à vous, grâce à tous ceux qui en parlent, grâce aux avis que vous nous laissez, aux étoiles, eh bien voilà, nous sommes très bien placés sur Apple Podcasts, qui nous permet en fait de pouvoir continuer. Donc nous sommes vraiment très heureuses de ça. N'oubliez pas que ce podcast, c'est le vôtre. Avant tout, c'est vous qu'on veut recevoir, comme Julie, par exemple.
Bonjour.
Que nous recevons aujourd'hui. Bonjour Julie. Voilà, Julie qui est venue vers nous via Instagram quand on a lancé un petit appel en disant qu'on avait un créneau d'enregistrement. Donc n'hésitez pas vraiment à faire la même chose, parce que avec Marie-Lise, on sera vraiment heureuse de vous recevoir. Voilà, Marie-Lise, j'en profite pour te remercier une fois encore de ta présence. C'est vraiment du temps que tu donnes pour nous, en plus de tout ce que tu fais déjà, du temps que tu donnes pour ce podcast. Moi, je le sais, parce qu'on a beaucoup de retours, que ça porte beaucoup de fruits. Donc, merci. Et vraiment, sans toi, ce podcast ne serait pas du tout ce qu'il est. Je n'existerais même pas, d'ailleurs. Donc, écoute, merci d'avoir re-signé pour ces saisons 4. Je te dis ça, mais je pense que je t'ai même pas posé la question. Donc, attends, je te la pose en direct presque. Marie-Lise, veux-tu re-signer, veux-tu t'engager pour cette saison 4 d'Au cœur du couple?
J'aime beaucoup le couple que nous formons à travers ce podcast et notre activité. C'est avec grand plaisir, Soazic, que je renouvelle l'expérience. C'est toujours agréable de recevoir tout et faire merci à chaque fois, non prévu. Moi, un petit bon amour, à chaque fois, je suis contente.
Mais attends, je suis les conseils que l'on donne dans notre livre Les 5 clés de l'amour durable, parce que je compte bien avoir avec toi un amour durable, Marie-Lise. Donc, je m'applique. Évidemment.
Ça.
Bon, bah écoute, je mets le champagne au frais et la prochaine fois qu'on se voit, on fête le début de cette saison 4. Je suis enchantée. Bon, alors on va rentrer maintenant dans le vif du sujet avec Julie. Bonjour Julie, est-ce que tu veux bien, chez nous la tradition, alors pas seulement chez nous, hein, dans beaucoup de podcasts, c'est de demander à notre invité de se présenter. Alors est-ce que tu veux bien, en quelques mots, te présenter à nous?
Ah oui, alors je suis Julie, j'ai 28 ans, je suis mariée à Renaud. On est ensemble depuis 11 ans, mariés depuis 2 ans et demi. Et on a un petit garçon de 1 an et actuellement je suis maman au foyer et j'envisage de reprendre des études.
Parfait. Bon, bah, écoute, ça a le mérite d'être clair et précis. Alors, nous, ici, on parle vie de couple. Donc, ce qu'on aime bien, c'est pouvoir visualiser le couple que vous êtes, vous connaître un peu plus. Est-ce que tu veux bien, voilà, nous présenter votre entité couple?
Oui. Alors, nous, on s'est rencontrés au lycée via un ami. On s'est mis ensemble. J'avais 17 ans. Ouais, 17 ans. On a grandi ensemble, on a évolué ensemble parce qu'on est passé vraiment de ado à jeunes adultes à adultes ensemble, non sans difficulté. On a passé des moments où on passait par la case un peu coloc et où on savait plus trop, voilà, quoi faire et où on a eu besoin de consulter aussi ensemble pour redonner un nouvel élan à notre couple, et c'est aussi ce qui nous a conduit à notre mariage. On s'est un peu dit, voilà, à l'issue de cet accompagnement, soit on concrétise quelque chose, soit on décide de dire que ben peut-être on est au bout du couple. Et au final, non, on a concrétisé ça avec le mariage. Et à l'issue du mariage, je suis tombée enceinte dans les mois qui ont suivi. Voilà.
Merci. On sent un peu d'émotion dans ta voix quand tu parles de ton couple, mais on comprend parce que on sent que voilà, depuis 11 ans que vous êtes ensemble, qu'il y a déjà eu du chemin parcouru, que tout n'a pas été facile. Donc voilà, je te remercie déjà pour la confiance que tu témoignes en venant parler avec nous. Alors, est-ce que tu peux nous dire la problématique pour laquelle tu as souhaité venir échanger avec nous aujourd'hui?
Oui. Alors moi, je me suis mise avec Renaud. Au début, évidemment, je pense qu'il y a toujours ce regard un peu où, moi, je suis en fait sa première petite copine. Et moi, j'ai eu très peu de copains avant. Et où, du coup, en fait, je suis arrivée dans sa vie un peu, voilà, j'étais un peu peut-être idéalisée pour lui au début. Et donc, il m'apportait beaucoup d'amour, beaucoup de, même dans le regard, dans les actes, etc. Et j'étais comme importante pour lui. Je pense que je le suis toujours, mais peut-être plus à ce moment-là. Et au fur et à mesure du temps, évidemment, y a des choses qui s'essoufflent un petit peu et qui se dégradent un petit peu. Et en fait, je pense qu'au fur et à mesure, je suis tombée vraiment comme en, pas en pénurie d'amour, mais un peu dans ce truc où, lui, il a pris les choses pour acquis et où, du coup, il a fait moins d'efforts. Et où moi, j'étais, le moment où lui, il est arrivé dans ma vie et où il m'a donné tout cet amour, ça venait combler tout un manque qu'il y avait depuis longtemps. Tout un manque d'amour qui a pu se manifester dans l'enfance, dans l'adolescence, à l'école, au lycée, au collège aussi. Et où, du coup, là, c'est vraiment venu, tout l'amour qu'il m'apportait à ce moment-là, ça m'a fait du bien. Et du coup, quand ça s'est essoufflé, ça a aussi fait remonter le fait que je manquais beaucoup d'amour en dehors de lui.
Cette pénurie d'amour dont tu parles, l'expression je trouvais bien trouvée. Tu nous dis que c'est depuis ton enfance. Tu dirais qu'elle vient d'où, cette pénurie d'amour? Qu'est-ce qui t'a manqué? L'amour de qui t'a manqué?
Mais je pense que j'ai eu beaucoup de paroles dévalorisantes quand j'étais jeune. C'était beaucoup d'amour conditionnel. C'est si tu as telle bonne note, tu pourras continuer telle activité que tu aimes bien ou ce genre de choses-là. Et de la part de donc beaucoup d'amour conditionnel. J'ai aussi beaucoup entendu, de mots par rapport au physique aussi, des paroles qui étaient humiliantes sur le physique, que ce soit de ma famille, que ce soit au collège aussi, où on a pu me harceler physiquement, par rapport à mon physique ou le surpoids, etc. au collège. Et au lycée, ça a un peu continué en ce sens. Et du coup, voilà, très dévalorisé. Et du coup, ça a vraiment cassé mon estime de moi, ma confiance en moi. Et voilà, ça a fait que j'étais un peu brisée en ce sens. Et qu'il a récupéré, un vase brisé avec des morceaux un peu recollés.
Quand vous vous êtes rencontrés, tu avais déjà, alors on le comprend, tu avais déjà cette souffrance, ce manque. Et lui, il l'a pas perçu?
Je pense pas forcément, parce que lui, je pense qu'il était brisé aussi en un sens parce que, il faut dire, il avait 18 ans, il avait jamais eu de petite copine, donc 18 ans, pas de petite copine, même si c'était il y a 10 ans, dans un contexte un peu différent d'aujourd'hui, mais c'est quand même un sujet qui est important, hein, même pour filles ou garçons, je pense, voilà, tu passes un certain âge, il faut avoir fait telle et telle chose, etc. Donc lui, il voit une fille qui lui donne de l'attention aussi, qui lui apporte des choses qui vont le combler, je veux dire, d'un point de vue même physique, ça peut être même sexuel ou autre. Donc, il s'est senti aimé aussi et comblé, d'une certaine façon, et touché que quelqu'un lui apporte cette attention. Et moi, j'avais aussi de l'attention dont je manquais. Donc, en fait, mutuellement, ça apportait voilà, l'attention dont on avait besoin l'un l'autre à ce moment-là.
Sans que vous ayez eu besoin finalement d'en parler, vous étiez non. quand même relativement jeune, donc oui. vous n'alliez pas tous les deux rentrer dans un processus de connaissance de soi et de l'autre profond. C'est plus quand on se rencontre à 17-18 ans, voilà, on est jeune, on est un peu plus insouciant. Tu le dis, il y a une espèce de, on se sent flatté parce que l'autre s'intéresse à nous, on se dit bah ça peut être cool de se mettre en couple, donc on avance un peu comme ça sans se poser de questions. Bon, vous, on sent quand même que, enfin, votre histoire déjà a perduré et que au fur et à mesure vous avez travaillé ça. Alors, à quel moment, enfin, comment est-ce que ça s'est matérialisé pour toi? Comment est-ce que, tu vois, tu as ressenti le fait que tu te sentais, de sa part, moins comblée d'amour?
Je pense, au fur et à mesure du temps, où peut-être il m'accordait peut-être moins de temps, ça a pu se matérialiser comment? Où on a emménagé ensemble en 2016, ça faisait 4 ans qu'on était ensemble, et où du coup, le fait qu'on se voit tous les jours, on habite ensemble en soi, ok, mais du coup, on passait moins de réels moments ensemble, on était un peu coloc, du coup, on est devenu au fur et à mesure un petit peu coloc, mais on avait moins ces temps, vu qu'on savait qu'on pouvait se voir quand on voulait, bah finalement, on prenait moins le temps de se voir pleinement et d'avoir un vrai temps de qualité ensemble. Ça s'est matérialisé, je pense, comme ça, et au fur et à mesure, physiquement aussi, je pense que moi, mon corps a changé au fur et à mesure avec le stress, avec un rapport à la nourriture qui n'est pas toujours peut-être sain. Et du coup, il me l'a dit, et même encore récemment, que voilà, je sais que je ne suis pas la Julie qu'il a rencontrée, même physiquement, je sais que j'ai grossi, etc. À la fois, il sait très bien que je ne serai pas la Julie d'il y a 10-11 ans, mais pour autant, je sais que c'est quelque chose qui est important pour lui et que ça peut, voilà, ça peut être compté que je prenne davantage soin de moi. Et ça passe aussi voilà, par toutes ces choses-là. Il y a plein de choses, en fait.
Comment est-ce que lui, tu vois, comment est-ce qu'il a réagi quand tu lui as parlé de ça, de ce manque d'amour que tu ressentais de sa part? Est-ce qu'il a justifié? Est-ce qu'il a essayé d'expliquer?
Alors, il le sait. Il m'a dit qu'il en était conscient, mais qu'il avait du mal à me donner l'amour dont j'avais besoin. Il fait comme un blocage. Il m'a expliqué que lui, au niveau sentimental, il y a quelque chose qui se passait peut-être pas comme tout le monde en lui, et que du coup, il avait un peu quelques besoins de quelques adaptations peut-être, et c'est pour ça qu'il a commencé à consulter quelqu'un en ce sens pour parler de ces problèmes-là, de ces problèmes à donner de l'amour, peut-être de la façon dont... Enfin, il n'a pas vu quelqu'un pour apprendre à me donner de l'amour, mais pour savoir en fait pourquoi est-ce qu'il y a un tel blocage à me donner de l'amour, parce qu'il sait, il me le dit, il a un blocage. Il sait, je lui manifeste mes besoins, je lui dis voilà ce dont j'aurais besoin, même dans des petites actions du quotidien ou autre. Mais ça est, voilà, il y a un mur un peu qui, comme quelque chose qui l'en empêchait en fait. Et il en souffre aussi, il m'a dit, et ça me fait me remettre en question de voir que je suis pas capable de te donner l'amour dont tu as besoin. Et c'est douloureux pour lui, même si un peu, je sais pas si c'est par fierté ou autre, il va pas forcément en parler tous les jours, mais voilà, c'est douloureux pour lui et je pense qu'il est face à quelque chose qu'il ne maîtrise pas.
Ce que je comprends là, c'est qu'en fait, dans votre couple, il y a toi qui es en demande d'amour, de venir combler un manque que tu as connu en étant jeune, en étant enfant, et tu as besoin, tu attends de lui en tout cas, tu attends de Renaud qu'il vienne non seulement apporter l'amour qu'il peut t'apporter en tant que mari, en tant qu'époux, mais en plus, s'il pouvait venir en fait déverser suffisamment d'amour pour remplir ton réservoir en fait qui est vide, en fait un peu ce double rôle que tu lui demandes, et il y a lui qui en fait a cette difficulté, d'après ce que tu dis, lui a justement à exprimer, à donner son amour. Alors ce qui est beau, je trouve, c'est que tu dis qu'il est en train de faire cette démarche pour comprendre pourquoi, parce qu'il pourrait se dire en fait si j'arrive pas à te donner cet amour, c'est peut-être que je t'aime pas, et voilà. Mais on sent que c'est pas ça que lui ressent, qu'il t'aime, mais que
je sais qu'il en a, il a émis ce doute à un moment donné où vraiment on a été essoufflés. Je pense que la parentalité nous a mis vraiment en difficulté, que ce soit moi d'être maman au foyer et d'être sur le front H24, et dû d'avoir des difficultés dans sa paternité, ben ça l'a aussi essoufflé. Et à un moment donné où il s'est posé la question, mais est-ce que je l'aime encore? Et bon, c'est dur forcément. Et en fait, non, je pense que c'est un cumul de tout, la fatigue et le reste, et qu'il se rend compte que oui, il m'aime encore, mais c'est juste que il se sent, j'imagine qu'il est face à une montagne et qu'il sait pas par où commencer pour la gravir, en fait. C'est tout. Et que pour lui, c'est pas, et alors il fait quand même des efforts. Il fait beaucoup d'efforts, mais si tu veux, par rapport aux différents langages de l'amour qu'on peut avoir, bah, lui va faire des efforts dans un domaine qui est le sien, donc il va penser que ça va peut-être m'apporter de l'amour et me combler dans un sens, alors que moi j'attends d'autres choses. Lui va peut-être être plus participatif, peut-être être davantage dans le fait de faire la vaisselle, par exemple, et c'est super.
Le service rendu, davantage.
Voilà, mmh. Davantage, et donc c'est super. Moi, je suis très heureuse aussi, mais peut-être que du coup, tu vois, je le vois moins aussi et que ça m'impacte moins parce que c'est pas mon langage à moi.
Toi, ce serait lequel, le type ?
Alors, bah, ça serait les temps de qualité, je pense, et aussi le contact physique. Tu vois, avoir un câlin le matin quand on se lève, ou peut-être plus de bisous, ou des choses comme ça, tu vois, qui moi me paraissent basiques et normales, mais lui, c'est vrai qu'il faudrait qu'il se mette un rappel en mode, allez, tous les jours, on se fait 3 minutes de câlin, et puis on lui a expliqué quand même que, même si au début, ça serait un peu forcé, au fur et à mesure, à force de le faire, il verrait aussi les bienfaits pour lui, je pense, en termes hormonaux aussi.
Alors, on sent quand même que c'est un sujet tous les deux duquel vous avez parlé, sur lequel vous avez travaillé. Vous êtes conscients tous les deux de vos, un peu de la façon dont les choses vous impactent et quels sont les manques que vous avez pu connaître et comment aujourd'hui ça se répercute sur votre relation de couple. C'est vrai que quand t'es venue vers nous, Julie, nous ce qu'on trouvait intéressant avec Marie-Lise, c'était peut-être l'axe de la position du conjoint dans une relation de couple. Et est-ce que on peut se positionner en tant que soignant, en fait, en tant que guérisseur? Est-ce que, en fait, ton mari aurait pour rôle de venir combler un manque d'amour qui viendrait de ton enfance, de ta jeunesse? Nous, c'est un peu comme ça qu'on s'est positionné. Alors, si tu veux bien, on va passer la parole à Marie-Lise, qui du coup va nous éclairer sur ce sujet.
Merci Julie pour ton retour et la qualité de tes questions, Soazic, comment ça ouvre, et je vais essayer de faire une réponse par rapport à ce que tu as pu dire, Julie, mais aussi peut-être ouvrir comme l'a fait Soazic, si ça peut aussi aider d'autres personnes. Ce que j'ai beaucoup aimé dans le récit que tu as pu faire, c'est comment aussi, c'est pas forcément une illusion, mais déjà tu l'as dit toi-même aussi, tu as choisi pour certaines choses qui venaient le combler, toi tu l'as choisi aussi pour d'autres choses qui venaient le combler, et comment aussi ces premiers temps de la relation, on voit peut-être pas les éventuelles problématiques, et où on est un peu dans une fusion, où on est dans un plein d'amour et beaucoup de plaisir et de la passion, et après il y a d'autres choses qui se passent. Et dans cette rencontre, en fait, qui se passe, c'est là où on peut davantage voir, ou être en contact, en tout cas, avec les blessures du passé, les blessures d'enfance de notre conjoint. C'est à ce moment-là, en fait, où on aperçoit les bagages de la personne avec qui on est, que ce soit ses blessures, mais ce que je tiens à rappeler aussi, c'est que dans ses bagages, il y a aussi les victoires qu'il a pu avoir dans sa vie, ses réussites, mais aussi ses rêves et ses projets d'avenir. Et c'est là où il y a un carrefour, en fait, qui se passe quand on est face aux blessures d'enfance de l'autre. C'est qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on s'inscrit, en fait, dans une forme de répétition ? Ce qu'on peut entendre parfois, il vient d'une famille violente, il va forcément être violent avec ses enfants ou avec sa femme, donc avec un phénomène de compulsion de répétition. Ou est-ce qu'on s'inscrit dans un processus de résilience ? Où là, on va venir guérir ou penser les choses. Et je pense que c'est ça la nuance qu'il faut avoir. C'est pas tant est-ce que l'autre guérit, mais comment la relation vient nourrir. Et c'est rigolo parce que même moi, en fait, plus je grandis en tant que psychologue et en tant que personne, je vois à la suite de mes études, très universitaire, j'étais dans l'idée, faire une psychanalyse, prendre le temps de penser ses blessures et arriver tout neuf pour avoir une belle relation. Et en fait, plus je vois des gens, plus je me dis aussi la puissance que la relation peut avoir et comment elle peut être un outil aussi de guérison. Et c'est là où c'est important, parce que je crois que quand on parle des blessures d'enfance, au final, la plupart des blessures, ça se résume à des blessures d'amour. Parce que c'est des blessures de lien, des blessures du lien maternel, paternel, ou avec des gens de confiance, ou fraternel. Et je pense que c'est justement dans le lien qu'on va pouvoir aussi les réparer, qu'on va pouvoir remettre de l'amour sur tout ça. Et je trouve que c'est bien, en fait, c'est pas tant, comme tu le dis, un peu comme un vase qu'on va essayer de remplir de plein d'amour qu'on n'a pas eu, mais comment le lien va permettre de valoriser cet amour et comment on va pouvoir plutôt en faire un bel amour. Parce que je crois que l'amour, justement, c'est pas avoir comme un vase qu'on remplit, parce que sinon ça veut dire quoi, à partir du moment où on a 5-6 enfants, notre vase il est vide et on n'a plus rien. C'est plutôt quelque chose d'inconditionnel qui circule de manière très forte. Et c'est comment dans le lien on va pouvoir fructifier ça. Je voulais juste faire une parenthèse, on le voit bien comment l'amour, c'est une des principales nourritures psychiques qu'on peut avoir. C'est le psychiatre René Spitz qui avait parlé de ça, mais pendant la guerre, il y avait des enfants orphelins qui étaient soignés, ils avaient des soins primaires, et malgré ça, ils décédaient en fait, ou ils avaient des signes de dépression majeure. Et en fait, on s'est aperçu parce qu'ils n'avaient pas de lien, ils n'avaient pas de lien affectif, ils n'avaient pas de contact corporel, ils n'avaient pas cet amour justement qui venait les nourrir. Et c'est cet amour qu'on donne à l'enfant qui va lui permettre de grandir et de pouvoir évoluer. Et je crois qu'on néglige à quel point, même adulte, on a besoin de ça, et c'est ça qui va nous faire évoluer et grandir. Donc c'est dans le lien amoureux qu'il va y avoir un chemin de guérison pour le couple et par le couple. Et c'est pas tant en fait l'un qui soigne l'autre, parce que je trouve que ça, tu le décris très bien aussi. Là, tu parles de tes blessures à toi d'enfance, t'es la mieux placée pour en parler, mais tu parles aussi indirectement quand même de ses blessures d'enfance à lui. Et c'est plutôt vous deux dans votre rencontre, comment par un dialogue, vous allez pouvoir dialoguer en sécurité et en profondeur, vous allez pouvoir découvrir ou mettre à découvert en tout cas l'enfant blessé intérieur de l'autre, pouvoir aussi l'accueillir, l'accepter et peut-être l'entourer d'une la certaine manière qu'il peut avoir. Peut-être que tu as parlé aussi des langages de l'amour. Et comment justement tu vas pouvoir exprimer tes besoins, aller pouvoir exprimer les siens, comment pouvoir exprimer ses attentes, et comment l'enfant intérieur de chacun va pouvoir se sentir aimé, entouré, en sécurité. Et ces blessures vont se penser l'une et l'autre. Mais c'est grâce à vous, en fait, c'est pas tant grâce à l'autre, c'est pas l'autre qui vient me guérir, mais c'est ce que vous créez dans le lien va permettre de soigner tout ça et de guérir votre lien amoureux. Et je trouve ça beau, en fait, de dire ça, parce que aussi, ça évite de mettre dans une position de dominant-dominé, où c'est grâce à lui que je me sens mieux, c'est grâce à lui que j'ai grandi. Non, c'est grâce à vous deux et ce que vous avez créé, et la magie du lien, et comment vous avez nourri votre lien, ça a pu vous guérir et guérir votre amour, en fait. Et ça va vous permettre justement de à la fois guérir, mais aussi de grandir dans votre couple. Donc j'insiste bien, c'est sur cette sécurité affective dont vous allez pouvoir créer, et le lien que vous allez créer qui va permettre ça. Et donc c'est à la fois ça en fait, c'est comment, parce que je crois qu'on a tous quand même cette envie quand on s'engage avec quelqu'un, on est prêt à se donner du mal pour gagner ce qu'on a manqué et pour pouvoir avoir ce qu'on n'a pas eu. Donc c'est pour ça que j'appuie, c'est important cette idée de résilience, qu'on est capable de bien plus que ce qu'on pense malgré le contexte qu'on a pu vivre. Et c'est ça qu'en fait j'avais en phrase un peu de conclusion, c'est comment guérir dans la relation, c'est oser aimer, mais aimer, ça va être oser guérir également. Je trouve qu'on peut le tourner dans les deux sens en fait, les deux vont ensemble. Donc ça va être ça le plus important. Et pour ceux qui nous écoutent, ce que je veux dire aussi, c'est que tout ce travail-là, ça passe par une prise de conscience des mécanismes de défense qu'on peut avoir. Donc ça nécessite une introspection et d'être en vérité avec soi et être en vérité avec l'autre. C'est quelque chose qu'on peut faire avec un psychologue comme l'a fait ton conjoint, mais pas forcément aussi. Ça peut être un travail qu'on peut faire aussi avec soi. Enfin, à prendre à cœur de « je suis en vérité avec moi, qu'est-ce qui fait que là je suis dans cet état, qu'est-ce qui fait que là je lis ça, qu'est-ce que je veux dire réellement ?» Pour conclure, c'est vraiment ça, c'est je pense réellement que le couple peut nous guérir, mais c'est cette relation de couple qui vient guérir l'un et l'autre, et c'est pas l'autre qui nous guérit.
Merci beaucoup Marie-Lise. J'ai écouté avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention, comme à chaque fois évidemment, mais parce que moi je trouve que c'est un sujet qui me tient à cœur et sur lequel je sais je me positionne pas toujours de la même façon que toi ou que d'autres, parce que moi j'ai, enfin, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à penser que si on demande à l'autre, à son conjoint, de venir penser, tu vois, nos blessures, de venir penser des manques que l'on a pu avoir sans soi-même avoir travaillé dessus, sans soi-même les avoir, toi, nécessairement compris, maîtrisés, je trouve que c'est dangereux. Mais là, je trouve que dans ce que tu dis, effectivement, on comprend bien que c'est pas l'autre à qui on demande ça, mais c'est plutôt au couple. Alors, ce que j'ai écrit pendant que tu parlais, et tu me dis si c'est juste, c'est est-ce que en fait dans le couple, est-ce que l'autre vient, peut venir nous guérir, ou est-ce que c'est l'énergie qui va se dégager du couple, l'énergie, la sécurité qui va se dégager du couple, qui va nous permettre en fait de rentrer dans un processus, tu vois, de guérison, mais personnel.
C'est plutôt ça que je veux dire, Sozik. Et tu sais, ce que tu as dit en première partie, je viens pas contredire ça, c'est je pense que les deux sont nécessaires. En fait, c'est la remise en question personnelle que tu vas avoir, mais c'est aussi, c'est ça justement, c'est pas l'autre qui vient nous guérir, mais c'est l'énergie qu'il va y avoir dans le couple, la base de sécurité, cette relation en fait qui va être sur des bases d'une sécurité affective forte, qui va permettre tout simplement qu'on gagne en confiance en soi, qu'on gagne en sérénité et qu'on puisse, par exemple, peut-être pas demander un espèce de grand bol d'amour qui au final ne sera pas nécessaire parce qu'on se sentira pleinement en sécurité et qui va permettre aussi de se poser des questions ailleurs et de pouvoir répondre à ses propres problématiques. Je sais pas si c'est plus clair comme ça.
Ouais, si.
Je dis pas qu'il faut pas se questionner individuellement, hein, loin de là. Enfin, je veux dire, si je peux pas dire ça, mais c'est juste que je reviens un peu sur mes premières pensées où faudrait être un peu totalement guéri avant d'être en couple. En fait, je crois qu'avant, je négligeais le pouvoir du couple sur la capacité à nous aider. C'était ça, tu vois, que je voulais dire. Comme si il y avait une division stricte entre mes problèmes personnels et le couple, et je dois régler mes petits problèmes à moi de mon enfance qui a été pourrie pour pouvoir aimer correctement. Et je crois qu'en fait, c'est un va-et-vient entre les deux. Et c'est ça que je veux valoriser. C'est comment, en fait, il y a ce travail personnel, certes, mais aussi le couple va pouvoir te nourrir et t'aider et valoriser ce travail et te guérir, en fait, par ce lien qui est sain, en fait.
Ah ouais, je comprends effectivement, je comprends mieux. Moi, si je peux ouvrir une parenthèse sur mon cas personnel, tu vois, avec Arnaud, notre relation, clairement, quand j'attendais de lui beaucoup de, tu vois, d'admiration, de compliments, notamment dans mon tout ce qui était professionnel. Et en fait, je sentais bien que parfois je recevais pas assez de sa part, mais et pour en avoir parlé, du coup, à un moment, je me suis rendu compte que cette admiration que j'attendais de sa part, en fait, je l'attendais de la part de mon père, que j'avais perdu jeune, et que clairement, lui, il avait pas cette place à prendre, il avait pas, il ne pourrait pas, de toute façon, c'était pas son rôle. Donc, à partir du moment où j'ai, tu vois, où j'ai mis le doigt là-dessus, notamment ça, j'ai entrepris une démarche, j'ai vu une psychologue, et effectivement, pour le coup, voilà, pour comprendre ce qui avait pu me manquer, pour comprendre mon histoire, et pour le coup, mon couple a effectivement été un endroit de, quand je revenais des séances, ce qui n'était pas toujours facile, un endroit de douceur, de consolation, et quand il fallait retourner à la séance suivante, plus de l'énergie, tu vois. Et puis je pouvais parler avec Arnaud voilà, des choses que j'avais comprises, de ce que j'avais découvert dans ces consultations. Mais tu vois, j'étais contente en fait d'avoir pu me dire ce besoin que j'ai d'être admirée par un père que je n'ai plus, c'est pas à mon mari que je vais le demander. Mais
je trouve que c'est un super exemple, ça illustre parfaitement bien Sozik. Et justement, c'est aussi, je pense, parce que il y a un peu comme avec Julie, le fait de demander un trop plein. Je trouve qu'en fait, à partir du moment où il y a un trop plein, on peut se poser la question qu'est-ce qui fait que j'en attends autant et que ça se passe comme ça. Il peut y avoir des dysfonctionnements dans le couple, mais pas que. Et ce que je trouve que est chouette quand tu mets en avant avec Arnaud, c'est aussi le fait que vous ayez pu en discuter de façon saine et tout ça, que ça a permis de te questionner et d'aller plus loin et d'aller justement sur cette voie de guérison. C'est là où je dis qu'il y a une force dans le couple, parce que si, imaginons, tu étais juste avec quelqu'un qui te dit bah, écoute, tu me fais chier, ou qui répond parfaitement, qui colle à ta demande, bah, en fait, tu n'aurais pas pu comprendre et aller plus loin, toi, dans ce qui pouvait te faire souffrir.
Ouais, c'est vrai qu'on a eu la chance d'être toujours suivi par le prêtre qui nous a mariés, et c'est lui en fait qui nous a permis de faire émerger ce manque qu'il y avait de ma part. Donc ça, c'est une grande chance. Est-ce que tous les deux, tu vois, au sein de notre couple, on aurait pu le trouver nous-mêmes? Parce que même si c'est quelque chose que j'avais pu décrire un peu, tu vois, ce manque du père et ce manque d'admiration, de là à se le dire, c'est hyper douloureux. Donc seuls, on préfère en fait balayer et dire mais non, en fait c'est Arnaud, c'est mon mari qui doit m'apporter ça, et voilà, pas quelqu'un d'autre. Donc, c'est vrai qu'on a eu cette chance. Julie, on est très pipelette, on est très bavarde, mais on a très envie de savoir comment tu as reçu ce que Marie-Élise a pu nous dire.
J'ai l'impression, moi, je l'ai reçu de la façon comme il faudrait un peu faire le deuil de ce manque d'amour et de tout ce qu'on a pu, comment dire, de la souffrance qu'on a pu avoir dans le passé, et dire ok, c'était avant, mais ça doit pas impacter aussi le fait que notre mari vienne nous donner de l'amour, et dire et accepter, on va dire, comment, le fait que dans le couple, bah, si ça se passe bien, qu'on a quelqu'un de confiance, etc., voir ça et se laisser envahir, on va dire, par ce positif et par cet amour-là, et faire un peu le deuil du manque d'amour passé, et dire, ok, dans ma vie de couple-là, comment je suis, et est-ce que mon mari, lui, me donne, juste à l'échelle du couple, l'amour dont j'ai besoin, et si la réponse est oui, je peux dire que c'est ok, que c'est une bonne chose. J'ai un peu vu comme ça.
Je vais juste rebondir à ça, parce que je trouve que ça fait un lien avec ce que tu disais. C'est qu'aussi, parfois, c'est ça justement que j'observe là dans ce que tu dis, dans pas mal de patients que je peux avoir. C'est aussi parfois quand on attend beaucoup, et qu'en fait, on attend au final de l'amour maternel qu'on n'a pas eu ou correct. Et ben, en fait, vu qu'on la demande à une personne qui n'est pas la bonne, qui n'est pas adressée, comme là dans l'exemple de Swazik, ben, ça sera sans fin, en fait, parce que justement, elle ne viendra jamais de la personne dont on l'attend initialement. Donc, effectivement, je trouve que dans ce travail de résilience, il y a peut-être ça aussi, à comment on peut faire la paix sur un passé et pouvoir accepter cette autre forme d'amour qui sera dans l'amour conjugal et aussi différente.
Mmh. Oui. Et c'est intéressant ce que tu dis, Julie, de dire, ben, en fait, replacer mon mari à sa place et attendre de lui un amour qu'il peut me donner en tant que mari et ni en tant que père, ni en tant qu'ami de classe que j'ai pas eu en cinquième ou voilà, enfin vraiment à sa juste place. Mais bon, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Mais déjà, quand on en prend conscience, et ça, on sent que tous les deux quand même qu'il y a un sujet pour vous, qu'il y a une communication dessus, qu'il y a une vraie démarche. Donc ça vous donne toutes les chances d'y arriver. Je pense que vous pouvez vraiment vous permettre d'y croire. Mais voilà, on sent que vous êtes quand même sur le bon chemin.
Je pense, en fait, c'est ça, que réussir, en fait, à changer de point de vue, à dire, OK, c'est pas... Voilà, l'amour que j'attends, c'est pas l'amour pour la Julie brisée du passé, mais c'est l'amour de Julie en tant que femme. Et finalement, est-ce que ça, il vient le combler? Et je pense que si on change de point de vue, oui, il vient le combler. Alors, je pense qu'il y a toujours quand même des choses, on peut quand même toujours... cherche à se remettre en question, à faire mieux, à faire différemment, à utiliser des outils comme tes carnets pour se dire, allez, on se donne un coup de peps et on, voilà, on cherche à gagner en complicité, mais pour autant, c'est vrai, voilà, changer de point de vue et regarder la situation d'un œil différent, en fait.
Mais je pense que c'est pas pour autant, Julie, qu'il faut que tu dises la Julie d'enfance qui est brisée, bon, on la laisse tranquille dans son coin. Enfin, je trouve quand même qu'il faut trouver un moyen de pouvoir lui donner de l'amour à cette petite Julie. Enfin, tu vois, faut pas l'abandonner pour autant en faisant un clivage entre les deux, parce que peut-être aussi même l'amour que tu vas avoir dans ton couple, ça va venir aussi la réconforter, ça va pouvoir la rassurer, ça va te rassurer sur des peurs que tu peux avoir qu'on grandit avec elle, ou peut-être que justement par que ce soit par d'autres facteurs, autres, un accompagnement aux alentours, tu vas pouvoir aussi guérir de ça, mais il ne faut pas pour autant la négliger, parce qu'elle fera toujours partie, quand même, elle sera toujours là un peu dans votre vie.
Pour seulement réussir à l'apaiser, cette petite Julie, plus qu'à l'oublier.
C'est ça, mais je pense que le principe de résilience, c'est bien, ouais, on est bien dedans, en fait, ça, à dire quand même avoir aussi quand même du lâcher prise, tout en ne la négligeant pas, mais avoir du lâcher prise, je pense que... J'aurais bien besoin de ça.
Bah écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite, en tout cas, Julie. Je te remercie à nouveau de la confiance dont tu nous as témoigné en venant ici. Merci pour d'être venue parler de ça, pour toutes celles à qui, pour tous ceux à qui ça va faire écho et qui peut-être ça va, tu vois, débloquer une conversation, débloquer derrière peut-être une démarche, un suivi. Donc mille merci. On a besoin de, tu vois, de personnes comme toi qui viennent, qui osent venir parler de ce qu'ils vivent dans leur couple, des problématiques qu'ils vivent dans leur couple et dans leur vie personnelle, pour pouvoir ouvrir d'autres possibilités à ceux qui nous écoutent. Donc mille merci, Julie. Marie-Lise.
Merci.
Une fois encore. C'était canon. Merci à vous tous d'être revenus pour cette saison 4 d'Au cœur du couple. Vous savez que ce qui nous aide, c'est d'en parler autour de vous, de nous mettre des étoiles, des avis. On le répète, mais c'est vraiment ce qui nous permet de perdurer. Donc, n'hésitez pas, si vous avez 30 secondes, 5 étoiles, plutôt qu'une, c'est mieux. Et puis, un petit avis, 3-4 mots, ça nous aide beaucoup. Voilà, mille merci à tous pour votre fidélité. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Au cœur du couple.
Puisqu'on ne vivra jamais tous les deux, puisqu'on est fou, puisqu'on est seul, puisqu'ils sont si nombreux, même la morale parle pour eux. Je n'aurai qu'un mot à dire.
Si vous aussi vous rencontrez des difficultés dans votre vie de couple, venez nous en parler. Laissez-nous un message sur aucoeurducouplepodcast@gmail.com ou via Instagram sur la page Au cœur du couple.
Nous sommes là pour vous.
Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à nous mettre des étoiles. Et n'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple.